Radio Kapi. Oh, Kapi.
Et voici la grande édition de la mi-journée présentée par Belinda Bossouma. Le sommaire. Nouvelle attaque des rebelles ADF la nuit dernière dans le territoire de Beni. Bilan 10 morts. Ceci ramène à 32 le nombre des personnes tuées en 3 jours seulement à Boulongo. Le commandant du secteur opérationnel Sokola 1 annonce des patrouilles de combat dans cette région. Province du Lualaba, Tenke, Kansenya et Lubudi dans le noir depuis plusieurs semaines. Situation consécutive au vol à répétition des câbles qui alimentent ces cités en électricité. Entre autres conséquences, l'insécurité et certaines activités tournent au ralenti. Et puis, la journée des Nations Unies, c'est aujourd'hui 24 octobre. À cette occasion, Radio Kapi met en lumière un projet de développement exécuté conjointement par le PAM, la FAO et l'UNICEF à Minova dans le Sud Kivu. Pour en parler, nous recevons Salif Djiré, chef de la FAO au Sud Kivu. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part du Nord Kivu. 10 personnes ont été tuées la nuit de samedi à ce dimanche à Boulongo par les rebelles ADF. L'intervention de la police, des FARDC ainsi que des casques bleus de la MONUSCO venus de Kilia a permis de limiter les dégâts. C'est ce que nous dit Marc Marofimbo.
24 heures seulement après l'attaque de la nuit du vendredi dernier dans les localités environnantes, la communauté rurale de Boulongo, les EDF pourchassés par les FARDC dans la région de Graben vers la partie sud-est du territoire de Beni sont de nouveau revenus pour tuer la population. Selon les sources locales, tout a commencé vers 19h15 quand des tirs nourris d'armes lourdes et légères étaient attendus vers la partie sud de la commune rurale de Boulongo, précisément dans les quartiers Gala, communément appelés SEPAC. Selon ces sources, l'armée était en face de ces rebelles qui avaient signé leur forfait en voulant se faire un chemin pour traverser en direction du parc. Un effort militaire des FARDC ainsi que des casques bleus de la MONUSCO basée à Kilia, à quelques 7 km de la commune de Boulongo, a servi pour contrer ces rebelles qui ont pris la direction de la forêt, ajoutent nos sources. Ce dimanche matin, la désolation a été grande sur les visages de la population de la commune de Boulongo devant les corps sans vie de leurs membres de famille. Avec cette nouvelle attaque, la commune de Boulongo vient de totaliser 32 civils tués à l'espace de 3 jours. Pendant ce temps, les commandants du secteur opérationnel Sokola 1 de la région dit avoir initié des patrouilles des combats dans cette région afin de limiter les menaces de l'ennemi sur la population civile. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Du côté de l'Ituri, des tirs d'armes sont entendus depuis ce matin dans le groupement de Malabo, territoire de Djougou. Selon des sources dans la région, il s'agit des affrontements entre les FARDC et des éléments du groupe armé Codeco. Hier, dans la soirée, ces miliciens ont blessé à la machette un habitant et pillé plusieurs biens de la population avant d'incendier des maisons. La présence de cette milice dans la zone a entraîné un déplacement important de la population, affirme des sources sur place. Le point avec Jean-Claude Loki.
Tout ce matin, la population de Lopa et celle de la périphérie s'est réveillée sous des détonations d'armes à feu. Ce qu'a déclaré à Radio Kapi un membre de ce civil que nous avons joué au téléphone. Il indique que ces tirs sont entendus dans la région de Mulabo où des combats opposeraient les FADC aux miliciens de la Codeco. Selon nos sources, la présence de ces assaillants est signalée précisément à Kbalé. Mais hier, au village d'Eto et Palestine, ils ont blessé par balle un homme et pillé plusieurs biens de valeur. Ils ont également incendié plusieurs maisons à Pronton. Lors de l'intervention hier des soldats des FADC à Dada, toujours dans la zone, 4 miliciens sont morts et 5 autres ont été blessés, affirment des sources sécuritaires qui ajoutent qu'un soldat des FADC y a perdu la vie et un autre a été blessé par balle. Depuis 2 jours, cette entité se vide de ses habitants. La nuit a été longue. Nous avons vécu dans la psychose, a déclaré un habitant joué au téléphone ce matin. La plupart des gens vivent en brousse, d'autres ont fui vers des milieux sécurisés. L'armée confirme que les combats sont en cours. Aucun bilan officiel n'est disponible pour l'instant. Bounia, Jean-Claude Loki Dile, Radio Kapi.
Retour au Nord Kivu, dans le territoire de Masisi. La situation sécuritaire se dégrade à Mweso, Kichanga, Kashuga et environ. En cause, la présence des éléments du groupe armé CMC réfractaires à la reddition. D'après la société civile de Bachali, un grand nombre de ces combattants ainsi que d'autres qui se sont d'abord rendus puis ont quitté les centres de cantonnement à cause des mauvaises conditions insécurisent la population. La société civile plaide pour la traque de tous ces combattants. Sifamaguru nous fait le point.
Tobilwa Kiokahambu, président de la société civile de Bachali, indique par exemple que ces combattants des CMC ont tiré des coups de feu toute la journée de vendredi, sémant la panique dans la région, sans compter leurs exactions contre la population civile. Par ailleurs, dans les groupements Bishusha, voisins de Kichanga, situé en territoire de Rutshuru, un militaire FARDC a été tué hier samedi au cours d'une offensive de l'armée contre ces mêmes combattants des CMC dans les villages Kiumba et Kiumba. Kinundu, ajoute notre source. Le porte-parole des opérations Sokola 2, le colonel Njike Kaiko, confirme aussi que l'armée a réussi à déloger ses assaillants de ces deux villages, mais aussi la perte d'un capitaine des FARDC au cours de cette offensive. Ces combats ont provoqué un déplacement de la population, précise la société civile de Bachali. Goma Sifamagoro, Radio Okapi.
Par ailleurs, notez cette déclaration du commandant du secteur opérationnel Sokola 1, je le cite, en charge des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix est en mission officielle dans le Nord Kivu. Le commandant du secteur opérationnel Sokola 1 nous parle de sa rencontre avec le diplomate onusien, le général de brigade Bertem Poutela, au micro de Marc Marofimbo.
On a parlé surtout les problèmes de la sécurité, et les opérations surtout et au niveau de mon secteur de Sokola 1 Grand Nord. Et vous avez la calmie, vous voyez la calmie ici à Beni. On était agité maintenant, ça a pris un mois ici dans la ville. Dans les centres de Beni, les villes de Beni, il y a vraiment un peu de calme.
Qu'est-ce que vous lui avez dit et qu'est-ce que vous avez demandé concrètement à la MONUSCO?
Qu'on travaille ensemble, qu'on soit toujours ensemble avec eux, et puis qu'on essaie un peu d'accélérer la collaboration avec eux, surtout du côté renseignement, tout ça. Puisqu'ils ont aussi des appareils, des drones pour nous aider. Nous aussi, nous avons des drones, mais il faut toujours travailler ensemble pour avoir des résultats concrets. Puisque les rebelles s'appellent néo-civils. Là où il n'y a pas de militaires. On nous a frappé hier, moi j'étais sur le terrain. On nous a frappé, mais en fouillant, ils ont commencé à danger la population. Puisque là, il n'y avait pas de militaires. Le Congo est grand. Pour mettre chaque militaire, une section par village, c'est ça difficile. J'ai initié un système de patrouille de combat, donc entre les unités, pour essayer de diminuer les tueries de la population.
Toujours hier à Beni, le secrétaire général adjoint de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, a échangé dans la soirée avec les représentants de toutes les composantes de la société civile de Beni, ville et territoire, la situation sécuritaire, la part de la MONUSCO aux côtés des FARDC dans le rétablissement de la paix dans la région, ainsi que tant d'autres problèmes qui rongent la société dans cette région ont été au menu de leur discussion. Maître Omar Kavota de CEPADO, qui a aussi assisté à cette rencontre, nous parle ici de quelques recommandations faites au secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des opérations de maintien de la paix. Il est au micro de Marc Marofimbo.
C'est notre vœu de voir le secrétaire général des Nations Unies appuyer sur l'accélérateur de manière à ce que la brigade d'intervention des Nations Unies, la FIB, soit fortement appuyée, de manière, comme elle a suscité l'espoir lors de la débâcle du M23, que cela le soit dans la traque contre les terroristes ADF-MTM. Mais aussi, nous sommes en train de recommander aux Nations Unies de soutenir significativement l'autorité de l'état de siège. Parce que nous disons que si l'état de siège devient un échec, les responsabilités seront endossées aussi bien par l'autorité congolaise que par la MONUSCO, son partenaire. Et nous voudrions que les efforts soient mutualisés de manière à ce que cet état de siège ne soit pas erraté. Aussi, nous sommes en train d'appeler les Nations Unies à accompagner les efforts d'apaisement, notamment contre les appels de citation à la haine, les appels à la violence et au tribalisme, parce que cela prépare les lits pour les crimes de masse.
Je vous le disais en titre, la cité de Tenke, territoire de Louboudi dans la province de Lualaba, est plongée dans le noir depuis plusieurs semaines. Cette situation est consécutive au vol à répétition des fils caténaires à partir desquels Tenke est alimenté en énergie électrique. La société civile déplore que les voleurs qui sont arrêtés soient souvent relâchés, situation qui met en insécurité les agents qui les traquent. Jean Gandou nous raconte.
Le vol des fils caténaires le long de la voie ferrée plonge les cités de Tenke, Kansenya et même de Louboudi dans le noir. Conséquence, sur le plan économique, certaines activités tournent au ralenti. Cette situation oblige certains opérateurs économiques à recourir aux groupes électrogènes, ce qui implique de nouvelles dépenses pour l'achat de carburant. Il en est de même des structures sanitaires. Le délégué administratif de Tenke, Jean-Claude Kalasamu Kandabantou, affirme que le manque d'électricité favorise aussi l'insécurité. Le vol des fils caténaires empêche également aux trains électriques de la SNCF d'être opérationnel sur cet axe, ce qui fragilise davantage les activités économiques et les mouvements des populations de cette agglomération du territoire de Louboudi. En même temps, la société civile s'inquiète du fait que les voleurs de fils caténaires qui sont arrêtés par les services de sécurité, une fois déférés devant la justice, sont vite libérés. D'où cet appel de Jean-Claude Kalasamu Kandabantou.
Le fait de relâcher certains qui ne sont pas jugés, ça met un peu en insécurité aussi les agents qui sont en train de faire ce travail. Nous demandons c'est que justice soit faite publique. Publiquement, en foraine, pour aider un peu à décourager cela. Nous demandons aussi à nos députés de Lualaba de suivre un peu ce dossier aussi pour qu'on essaie un peu d'accélérer ces processus de jugement. Ça va beaucoup plus soulager notre population.
Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Merci de nous écouter à Matadi. À la suite de l'accident survenu vendredi devant le collège Ntetemboa, accident ayant causé la mort d'un élève et l'incendie du camion qui l'a heurté, le maire de Matadi donne un ultimatum de 3 jours aux garagistes et propriétaires de tous les véhicules qui encombrent l'avenue où se trouve le collège Ntetemboa. La direction provinciale de la Commission nationale de prévention routière qui déplore ce énième accident sur cette même avenue indique que les responsables des écoles situées sur cette avenue ont par le passé, à travers une correspondance, solliciter l'évacuation des garages automobiles et des véhicules à cet endroit, mais sans succès. Nana Plurich Mambou nous en dit plus.
Elohim Malonda, élève de la deuxième secondaire électronique, a trouvé la mort vendredi devant l'entrée principale de son école. Pendant qu'il descendait d'une moto, lui et les conducteurs de la moto ont été surpris par les bus de marque Mercedes 508 confrontés au problème des freins. La Commission nationale de prévention routière regrette cet accident, tout en estimant que les cas d'accident sur cette avenue qui abrite plusieurs écoles de Matadi pourraient être évités. Célestin Djunga est le directeur provincial.
Mais il a été décidé qu'on ne doit pas avoir des garages de camions poids lourds aux alentours d'une école. Nous avons dans notre pays une maladie qu'on appelle manque de suivi.
Cet accident mortel a provoqué le soulèvement des élèves du collège de Témboa. Ces derniers ont saccagé plusieurs véhicules avant d'incendier un véhicule remorque de la société Pacitra et la moto qui transportait leurs condisciples. La police qui est intervenue pour mettre de l'ordre a usé des gaz lacrymogènes. Le directeur des études du collège de Témboa qui affirme les faits condamne cette manière de faire de la police. Frère Karel Mukole.
On lapide un enfant et qui est dans l'enceinte de l'école.
Face à cette situation, le maire de Matadi a arrêté des dispositions pour que ces drames ne se reproduisent plus dans l'avenir. Patintu Jouamakengedi.
Maintenant là, nous avons donné 3 jours aux propriétaires de dégager leurs véhicules sur cette avenue.
Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Direction le Kasaï oriental. La fondation Béa Boulela, une association sans but lucratif, s'emploie à poursuivre l'assistance des enfants démunis et des femmes maraîchères en RDC. Après avoir assisté les enfants vulnérables du Nord et Sud Kivu, la fondation Béa Boulela s'est engagée à prendre en charge les frais scolaires de plus de 20 enfants vulnérables de Mbujimayi. Elle s'est également engagée à encadrer une centaine de femmes maraîchères avec des semences et des intrants agricoles. Au cours de la cérémonie de présentation de cette fondation, le jeudi dernier, le président du conseil d'administration a demandé à d'autres organisations d'emboîter le pas pour relever quelques défis. Alidor Beamulumba, président du conseil d'administration de cette fondation, s'exprime au micro d'Esther Nalafina.
Nous sommes d'abord là pour aller vers le très démuni parmi nous. Et cela se fait par méthodologie chaque fondation. Moi, je préférais faire cela souvent avec ceux qui sont dans l'alimentaire. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'on dit souvent « votre famille n'a pas d'oreille ». L'alimentaire, je voyais qu'il fallait encourager les mamans, surtout les mamans maraîchères que vous voyez chaque fois, les encourager dans leur quotidien, afin qu'ils puissent parvenir à faire scolariser leurs enfants. Mais parce que nous commençons, il y a les antennes que vous avez déjà placées, qui pouvaient localement faire quelque chose. Nous sommes là, c'est pour aller vers les démunis. C'est ça la chose précise. Ici, au Kasaï oriental, nous avons voulu commencer toujours comme ailleurs avec les élèves, les enfants de l'école primaire, les enfants des secondaires. Notre fondation n'a pas rencontré une ouverture auprès des opérateurs locaux. Parce que vous n'oubliez pas que la fondation vit et fonctionne avec des aides, des assistances et de l'EC aussi. Ailleurs, par exemple, quand j'ai Boutembo, nous avons été accueillis par les gens de Boutembo qui nous ont donné même l'espace de formation des enfants. Les gens de Boutembo, quand nous avons passé le message, ils se sont donné la peine de dire non, pour nous, formation de nos enfants dans tel établissement. On doit mettre des enfants pour formation. Dans tel établissement, on peut le faire. Nous avons demandé cela à travers toutes les provinces où nous sommes. Mais chez nous, malheureusement, ce n'est pas encore commencé.
Actualité internationale.
Le sommet mondial de la santé s'ouvre aujourd'hui dans un format hybride, à la fois à Berlin en Allemagne et sous forme numérique à distance. Cette édition 2021, qui doit durer jusqu'à mardi, réunira le gotha du monde scientifique, politique, de la société civile et du monde des affaires issus des 100 pays. C'est l'un des principaux forums stratégiques internationaux en ces temps des pandémies de Covid-19. L'idée est de trouver ensemble des solutions aux défis mondiaux en matière de santé et de définir une feuille de route pour l'avenir. Au Kenya, la jeune athlète Agnès Tiro a été enterrée hier dans son village familial dans l'ouest du pays. Elle a été retrouvée morte le 13 octobre dans sa chambre à Iten, au lieu d'entraînement des sportifs kenyans. Selon des sources sur place, Agnès Tiro a été poignardée et son meurtre a soulevé la question des violences domestiques au Kenya. Beaucoup de Kenyans demandent justice. Le principal suspect, son mari, est pour le moment en détention provisoire.
L'invité.
Comme dit dans le sommaire, à l'occasion de la célébration de la Journée des Nations Unies aujourd'hui 24 octobre, Radio Okapi met en lumière un projet de développement exécuté conjointement par le PAM, la FAO et l'UNICEF. Ces trois agences onusiennes travaillent ensemble depuis 2018 pour lutter contre la malnutrition et renforcer la résilience des organisations paysannes à Minova, territoire de Calais dans le sud Kivu. Ce projet est financé par la coopération allemande à travers la Banque allemande de développement à hauteur de 50 millions d'euros pour une durée initiale de 5 ans, soit de 2018 à 2023. Aminova Salif Djiré, chef de la FAO Sud Kivu, explique de fond en comble ce projet dans cet entretien avec Cynthia Bachizi. Salif Djiré, bonjour.
Oui, bonjour madame.
Alors le projet porte sur quoi exactement?
Bon, comme l'a si bien dit, le projet quand même c'est un projet qui unit les trois agences des Nations Unies, à savoir le PAM, l'UNICEF et la FAO. Il y a différents volets où on a la productivité, assurer quand même une bonne productivité des productions agricoles et puis relever les défis de l'amélioration des moyens d'existence. Également assurer un accès aux services sociaux de base qui est un élément important et également un autre volet qui va dans le sens de l'amélioration de la cohésion et la construction de la paix.
Nous sommes ici dans le village de Boulenga, dans le groupement de Bouzi, et tout le long de la route, nous avons vu des cantonniers. Vous nous aviez dit que ce sont des bénéficiaires de ce projet de résilience. Comment ça se fait?
À travers une certaine activité que nous appelons FFA, qui veut dire travail pour de l'argent, c'est-à-dire que les producteurs ou les communautés elles-mêmes assistent à leur développement en contribuant par du travail qu'ils font, moyennant une certaine rémunération qu'on leur donne. Ça peut être des travaux pour l'aménagement, la réhabilitation des routes et des dessertes agricoles, mais également des activités de reboisement, des activités également d'aménagement des marais agricoles.
Que vise ce projet? Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de l'impact même de ce projet de résilience?
Pour parler d'impact, c'est quand même un peu à long terme, mais déjà on a des éléments positifs qui sont visibles à l'ONU, parce que vous savez déjà, on a essayé quand même d'améliorer la production. Il y a plus de 500 hectares qui ont été aménagés par la FAO pour les marais qui ont été drainés. Ça, c'est très important pour nous. Nous avons aussi distribué plus de 30 000 outils aratoires aux producteurs et nous avons formé plus de 375 producteurs OP qui sont là pour travailler dans le cadre vraiment d'améliorer la productivité, mais également d'assurer une bonne continuité des activités champêtres tout en tenant compte de leurs besoins, mais également de l'accès au marché et améliorer également la nutrition au sein des communautés. Vous avez vu le balai des visiteurs. Quand vous voyez, il y a différents ambassadeurs qui ont commencé à venir. Vous voyez aujourd'hui, c'est la présence de son Altesse, la princesse Sarah. Et vous allez voir aussi également très prochainement la visite de KfW, qui est quand même la banque à travers laquelle la coopération allemande finance ce projet. C'est pour vous dire que tous les bailleurs qui ont eu à fouler le pied les zones du projet sont satisfaits. C'est déjà un élément très important.
Vous parlez d'activités champêtres. Est-ce que vous aménagez aussi des greniers communautaires ou des marchés communautaires?
Comme c'est un projet conjoint, le PAM assure vraiment la construction des greniers communautaires. On a des complexes, on a des abris d'unités de transformation, on a également des boutiques d'intrants qui permettent aux communautés d'être organisées d'abord en OP, organisation paysanne. Ensuite, elles vont être formées, transformées en union d'organisation paysanne, ensuite en coopérative. Ce qui permet vraiment de professionnaliser le secteur, mais également d'assurer une bonne continuité, une bonne coordination des activités agricoles en milieu rural.
Qu'est-ce qui a justifié la mise en œuvre de ce projet dans ce territoire de Calais?
Bon, nous savons que ce territoire quand même, il est vaste, même si on sait que on est en train d'atteindre 15 000 bénéficiaires dans cette zone à travers ce projet, c'est 15 000 ménages qui vont être atteints parce que c'était une zone quand même assez vulnérable due quand même à des conflits. Vous avez vu récemment les déplacements des communautés dus au volcan au nord Kivu. Donc c'est des activités qui nous ont poussé à penser à contribuer au développement de cette communauté, mais également à renforcer leur résilience pour qu'ils puissent faire face aux défis que nous sommes en train de relever ensemble.
Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson. Ce proverbe de Confucius résume assez bien le projet conjoint de résilience.
Je pourrais dire très bien, même dans la mesure où nous sommes dans un domaine de résilience qui nécessite quand même de la préparation, du fait qu'il y a beaucoup d'animaux aléas autour de nous, beaucoup de difficultés d'accès aux différentes ressources, que ce soit à la terre, aux semences, aux intrants, mais également des difficultés d'organisation, d'accès au marché. Ce qui nous pousse à dire que cette résilience va être un combat de longue haleine où il faut vraiment apprendre soi-même à s'envoler.
Je vous remercie.
Merci également à vous.
Salif Djiré, chef de la FAO Sud, qui vous répondait aux questions de Cynthia Bachizi. C'est la fin de ce journal coordonné par Richard Junior Kamunga sous la supervision de Ben Kabamba, à la technique Sylvain Matundu et devant ce micro, Belinda Bosuma. À partir de 13h, retrouvez Pascal Masirika pour la suite de l'actualité. Merci.